la marche de l'histoire et aujourd'hui, le poète Baudelaire.
Et oui, c'est l'anniversaire de son décès en 1867.
Le nouveau est dans le passé, ça paraît totalement paradoxal, puisqu'on a toujours imaginé que le passé était dépassé.
Charles Baudelaire.
Un vers de Monsieur Baudelaire résume admirablement sa manière. Je suis un cimetière aboré de la lune.
Regardez cette physionomie vicieuse, à la fois molle et ravagée. Mais on le sait nerveux, cependant, bilieux,
irritable et irritant, désagréable avec tout le monde. Étudiez ses mouvements des mains. On dirait qu'elle cherche les mots les plus prétentieux.
Une nature instable et sans équilibre, disait le substitut Pinard pendant le procès des Fleurs du Mal. Quand Baudelaire meurt, à 46 ans seulement, le 31 août 1867, sa vie semble scellée par l'échec. À l'enterrement, ses amis ne forment qu'un mince cortège, mais quand il entre au cimetière Montparnasse, un coup de tonnerre aurait éclaté. Baudelaire, le solitaire, était appelé à devenir l'unique, le classique des choses qui ne sont pas classiques. De son vivant, ce fut un être d'opposition. Son ennemi primordial fut son beau-père. Le général Aupic, grand notable de la monarchie de Juillet et du Second Empire, n'était pas n'importe qui, mais il incarna pour Charles ce que celui-ci détesta toujours, la satisfaction de soi et la morale conventionnelle. Le général ne fut pas pour peu dans la mise sous tutelle du jeune Charles. De 1844 à sa mort, Baudelaire dut sans cesse demander l'aumône à sa mère et à son notaire, mais il aima toujours la première et du second, il fit curieusement son confident. Ce révolté avait besoin de l'autorité qu'il contestait. Sa tutelle, il la détestait et il la réclamait. D'ailleurs, quel que fût le sujet, Baudelaire se tenait dans une double postulation. Entre Dieu et Satan, entre l'horreur de la vie et l'extase de la vie, entre la passion pour la nouveauté et la mélancolie des choses passées. C'était un carrefour de désaccords. Il n'était guère démocrate, mais il le serait devenu davantage s'il avait pu ajouter à la Déclaration des droits de l'homme le droit de se contredire.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
En compagnie en ce jour anniversaire de Marie-Christine Natta, bonjour.
Bonjour.
Très grande biographie, à tout point de vue, chez Perrin. On peut dire, mais ça vous n'allez pas répondre à mon observation, que d'une vie scellée par l'échec, vous avez fait un livre réussi et un livre au long cours sur l'œuvre d'un poète dont vous avez, là je vous taquine, dont vous avez le sentiment que son souffle était parfois un peu court.
En effet, oui. Baudelaire disait qu'il accouchait avec le forceps. Donc, il a écrit une œuvre finalement relativement mince. Et c'est parce qu'il avait du mal à créer. Et surtout, il peaufinait, il polissait son œuvre constamment. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle il a publié Les Fleurs du Mal si tard. La plupart de ses confrères poètes publiaient leur premier recueil beaucoup plus tôt. Lui, il a pris son temps.
Alors, je vous propose un itinéraire limité. Il n'a pas beaucoup voyagé, Baudelaire, sauf un immense voyage dans les mers du Sud auquel l'avait contraint sa famille pour contrarier sa carrière d'endetté, qui s'est insinué par le souvenir lentement en lui. Mais il a vécu pour l'essentiel à Paris. Mmh. Alors, on va rester à Paris presque tout du long. 1821, quand il naît dans un Paris ancien, le quartier latin, rue Hautefeuille, et dans un appartement, peut-être pas plein de 1000 ans de souvenirs, mais un appartement plein de choses du passé.
Oui, et en particulier du XVIIIe siècle, parce que son père, qui était assez âgé, il avait 60 ans quand il a...
Le père, c'est François Baudelaire, confondre avec le général dont on parlera dans un instant.
Voilà, le père, donc François Baudelaire, qui était donc assez âgé, avait vécu donc la Révolution. C'était vraiment un homme du XVIIIe siècle, et Baudelaire a été très très imprégné de l'atmosphère XVIIIe siècle de cet appartement de la rue Hautefeuille.
Alors son père, le vrai père toujours,
François,
a eu le temps, pendant le peu d'années qu'il a connu son fils, de l'emmener au jardin du Luxembourg. Oui. Et vous prétendez, alors ça c'est constant dans votre livre, que Charles Baudelaire était à rebours du sentiment de la nature dominant pour ses contemporains. Quand même, le Luxembourg.
Oui, alors Luxembourg c'est une nature certes, mais très très domestiquée. En effet, Baudelaire, de par son dandysme, est un homme qui aime, qui privilégie l'artifice et qui n'aime pas la nature. Et un jour, un de ses amis lui avait demandé donc de faire des poèmes sur la nature pour faire partie d'un recueil collectif. Et il s'y est opposé dans une lettre assez drôle dans laquelle il dit qu'il n'a pas le culte des légumes sanctifiés par les romantiques, par exemple.
Et vous voudriez que je parle des insectes, peut-être ?
Oui, oui.
Ajoute-t-il. Alors, après la mort de son père, il est arraché au cours des tendresses exclusives avec sa mère, auxquelles il aurait voulu se livrer toute sa vie, puisque le général Aupic, qui n'est pas encore général, arrive. Les Aupic vont habiter souvent des appartements de fonction, et pas n'importe lesquels. Et Charles Baudelaire va leur fausser compagnie, parce que à la veille du bac, il est renvoyé de Louis-le-Grand, et il commence à habiter des pensions d'étudiants, et à mener une vie, finalement, très jeune, relativement libre. Nous sommes ici à la fin des années 1830. C'est encore la ville d'ombre et de peu de lumière.
Cependant, des démons malsains dans l'atmosphère s'éveillent lourdement comme des gens d'affaires et cognent en volant les volets et l'auvent. À travers les lueurs que tourmente le vent, la prostitution s'allume dans les rues. Comme une fourmilière, elle ouvre ses issues. Partout, elle se fraye en occulte chemin, ainsi que l'ennemi qui tente un coup de main. Elle remue au sein de la cité d'Offange comme un ver qui dérobe à l'homme ce qu'il mange. On entend, ça et là, les cuisines siffler, les théâtres glapir, les orchestres ronfler, les tables d'hôtes, dont le jeu fait les délices, s'emplissent de catins et d'escrocs, leurs complices, et les voleurs, qui n'ont ni trêve ni merci, vont bientôt commencer leur travail, eux aussi, et forcer doucement les portes et les caisses, pour vivre quelques jours et vêtir leur maîtresse.
Crépuscule du soir, lecture par Michael Lonsdale. Alors, vous ne comptez pas que je vous parle des végétaux, des insectes, ni même du soleil, mais je peux vous parler des tables d'hôtes, des catins et du vin qui est fils du soleil. Et pourquoi pas du haschich, auquel il touche très vite.
Oui, mais très peu. Très peu, parce que Baudelaire, contrairement à ce qu'on croit souvent, n'est pas un grand drogué. Sa seule drogue véritable, c'est l'opium, non pas le haschich, auquel il a goûté, mais je vous dis très peu, ça ne lui convenait pas. Il a même été dans les paradis artificiels particulièrement sévères sur le haschich. En revanche, l'opium, oui, là, il s'y est adonné. D'abord pour des raisons médicales, il en avait besoin pour soigner ses maux d'estomac. Et puis, peu à peu, il est devenu addict, on dirait aujourd'hui. Et donc, il utilisait, mais par période, c'était pas non plus constant. Quant au vin, il en buvait, certes, mais il n'était pas du tout un alcoolique. Il l'est devenu à la toute fin de sa vie, quand il était en Belgique, particulièrement physiquement et moralement très malade.
Vous êtes en train de nous décrire un individu sous contrôle. C'est pas le sentiment qu'a sa famille. Quand, devenu majeur, en 1842, il l'hérite du pactole du père. Enfin, il croit que c'est un pactole, que c'est un trésor inépuisable. Non. Et c'est ce que vont faire remarquer sa mère et le colonel Aupic. Et 1842-43, il a quand même les moyens, suffisamment longtemps, pour s'installer en garçon dans un appartement idéal. Alors restons dans la description de Paris. On est maintenant dans l'île Saint-Louis, hôtel Pimodan, l'actuel hôtel de Lauzun. Ça, c'est l'appartement idéal, selon Baudelaire, qu'il y trouve.
Oui, ça n'a pas. Là, il a eu donc 2 ans de splendeur, si on peut dire. C'est-à-dire que c'est là où il puise donc dans son héritage comme dans un trésor fabuleux. Ça ne dure que 2 ans. Et pendant ces 2 années, effectivement, donc il occupe plusieurs logements, dont des logements dans l'île Saint-Louis. Alors, l'appartement de sa maison natale a disparu avec le percement du boulevard Saint-Germain. En revanche, l'hôtel Pimodan existe toujours, on l'appelle aujourd'hui donc l'hôtel Lauzun. Et donc Baudelaire y avait un appartement très tout à fait charmant qu'il avait décoré d'une manière très très originale, c'est-à-dire que cet appartement était tout à fait dépouillé à la fois du luxe lourd et ostentatoire des appartements bourgeois, et il était également, c'était un appartement très ordonné, contrairement aux appartements de la Bohème. Donc c'était un appartement extraordinairement original de ce point de vue-là. Donc il y avait des tapis par terre qu'il parfumait de musc, des gros divans, des gros fauteuils de chanoine, comme le disent ses amis, et c'était un appartement d'un ordre parfait.
Les livres posé à plat, plutôt que rangé classiquement dans les bibliothèques.
Il n'y avait aucun, ce qui a frappé particulièrement Théodore de Bonnevie, il n'y avait aucun outil de travail visible pour un jeune écrivain. C'est assez étonnant. Aucun. C'était parfaitement lisse.
Il faudra un jour faire le rapprochement entre l'appartement de Baudelaire et les appartements de Chanel, parce que ça ressemble beaucoup. Il y a des miroirs, chez Chanel il y a des miroirs, je ne suis pas sûr qu'il y a des miroirs hôtel de Lauzun. Pourtant le thème du miroir... Mm-hmm. C'est très important, mais alors le miroir, pour moi, c'est le miroir où on se regarde dormir, quoi. Vivre et dormir, mais c'est pas ça
vivre
pour Baudelaire.
Et dormir, être le dandy vit et dort devant un miroir. Alors en fait, c'est le miroir dont parle ici Baudelaire, c'est un miroir tout à fait métaphorique. Alors Baudelaire devait avoir des miroirs, on ne le sait pas particulièrement, mais comme tout le monde, pour ajuster sa cravate. Mais le véritable miroir de Baudelaire, c'est les autres. Le véritable miroir d'un dandy, c'est les autres. Le dandy ne s'abîme pas dans une contemplation narcissique de lui-même. C'est surtout, il a besoin du regard des autres. C'est ça son véritable miroir.
J'imagine le regard des autres dans l'hôtel Pimodan, parce qu'il n'a pas les mêmes horaires que tout le monde.
Pas vraiment, non.
Vous croyez que je vais manger et régler mon estomac en fonction des horloges publiques, dit-il.
Oui. Donc il impose à ses amis de manger à des heures impossibles, alors que ses amis ont déjà déjeuné. 2 heures après, il leur demande de redéjeuner avec lui. Il arrive à les convaincre, c'est ça qui est quand même un comble.
Et les femmes qu'il amène dans l'appartement, à commencer par Jeanne, va jouer un rôle très important pendant une longue partie de sa vie, ne ressemble pas exactement aux autres de l'époque. Enfin, elle ne ressemble pas au canon de la beauté.
Pas vraiment,
tels qu'ils sont définis à l'époque.
Pas vraiment. C'est une mulâtresse très grande. Donc qui ne correspond en rien effectivement au canon de la beauté de l'époque. Et ça a été vraiment c'était vraiment une je dirais pas une passion durable, parce qu'il ne l'a pas aimée passionnément toute sa vie, mais en tout cas il ne l'a jamais abandonnée, même quand elle est devenue malade, paralytique, etc.
Mais ce qu'il aime, expliquez-vous, c'est la femme fardée. Alors une seule œuvre narrative qu'il ait menée à terme, La Fanfarlot.
Oui.
Un personnage, Caroline, le héros Samuel. Et Caroline se met nue devant Samuel, vous vous souvenez ?
Oui, enfin la Fanfarlot, oui.
Vous vous souvenez de ce moment ?
Oui, bien sûr. Donc elle se met nue, elle commence à se dévêtir, et donc Samuel Kramer, qui est tombé amoureux d'elle, donc cette femme est danseuse, et il lui interdit de se dévêtir parce que il veut la voir avec son corsage de saltimbanque. C'est-à-dire qu'il veut la voir parée, fardée.
Alors si elle se met nue, elle s'expose à l'entendre demander, mais va chercher ta robe de colombine,
de
ton rôle.
Voilà. C'est-à-dire qu'elle redevient, si elle se met nue, elle est une femme comme une autre. Alors que parée, c'est une femme artificielle, et Baudelaire n'aime les femmes que dans l'artifice. Et d'ailleurs, à ce propos, il a écrit dans Le peintre de la vie moderne un éloge du maquillage absolument extraordinaire.
On a trouvé celui-ci que vous ne connaissez pas, qui est plus moderne, Arthur Ashe.
Oh, yeah, 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 yeah. La femme maquillée, elle est si belle. Femme maquillée, elle pose sa main sur ton cœur brûlé, sur ta blessure. Tu en as pas chassé les moches, moches. Gaga. La musique te casse le crâne, crâne. L'amour t'a fait payer cash, cash. Oh, oh yeah, 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 yeah.
femme maquillée, elle est si belle.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
31 août 1867, la disparition de Baudelaire. Nous sommes avec Marie-Christine Natta qui publie une grande biographie de Baudelaire, la première aussi importante depuis une trentaine d'années aux éditions Perrin. On l'a laissé, Île Saint-Louis, hôtel de Lauzun. Sa période de zénith dure, vous l'avez dit, peu en 1844. Sa famille le met quasiment sous tutelle judiciaire. Et il va maintenant devoir faire avec les moyens du bord. Et si on continue, puisque c'est le principe de cette émission, notre itinéraire baudelairien dans Paris, il faut dire maintenant que c'est le Sahara de la débine, quoi, expliquez-vous. Et qui, c'est un inextricable dessin de déménagement, 33 logements.
En 25 ans, oui.
Et il va où? Ou bien pour coucher, ou bien pour manger à n'importe quelle heure, ou bien pour discuter, ou bien pour écrire. Dans quel Paris?
Alors, il va rive gauche et rive droite. Il commence plutôt par la rive gauche et dans la deuxième partie de sa vie, donc il est plutôt rive droite. Et alors, les logements qu'il occupe, ce sont des hôtels, ce sont des garnis. Parfois, il en occupe deux à la fois pour échapper aux huissiers. Et alors, en occupant deux logements à la fois, évidemment, il s'endette encore un petit peu plus. Ouais. Enfin, ce qu'il y a de fascinant chez lui, c'est le fait qu'il ait pu accomplir l'œuvre qu'il a accomplie dans un chaos matériel aussi énorme, enfin aussi inextricable.
Dans les cafés, il travaillait?
Oui. Alors, il écrivait sa correspondance beaucoup dans les cafés. Il travaillait souvent la nuit. Il travaillait là où il pouvait. Enfin voilà, il n'y a pas de régularité. Voilà.
Alors, vous parlez du boulevard des Italiens. Les premières terrasses de café apparaissent par là, vers 1850, un peu avant. Et vous parlez de la rue Pigalle.
Oui. Alors, rue Pigalle, du côté de la rue Pigalle, voilà, il y a un lieu important qui se trouve juste à l'actuelle métro Pigalle, qui est donc la rue Frochot. C'est la rue dans laquelle habitait sa maîtresse, sa muse, Madame Sabatier. Donc, c'est un lieu qu'il fréquentait beaucoup. Il était voisin puisqu'il habitait rue Pigalle, donc tout près de chez sa maîtresse, Madame Sabatier.
Et puis, il y avait plein d'amis, de camarades. Pour imaginer ce qu'étaient ses camarades, je prends un personnage, Charles Vincent. Il était un chansonnier.
Oui.
Et comment il se faisait payer?
Il se faisait payer avec des chaussures.
Comment ça?
Voilà, donc il travaillait pour le moniteur de la cordonnerie, il se faisait payer en chaussures. Et Baudelaire a failli travailler pour lui, puis finalement ça ne s'est pas fait. Mais ça aurait été bien pour un dandy, effectivement, de se faire payer en chaussures. Et un dandy sans le sou.
On continue notre progression chronologique. 1846, son premier grand texte publié est consacré au compte-rendu du salon, le salon de peinture qui avait lieu tous les ans. Je voudrais que vous nous expliquiez ce qu'il y dit des républicains, parce que le régime de la monarchie de Juillet, de temps en temps, crossait par ses sergents de ville les républicains qui manifestaient, et lui, il trouvait ça très bien.
Oui, alors il y a beaucoup de provocations chez Baudelaire, il faut beaucoup se méfier de ce qu'il dit. Donc effectivement, dans le salon de 1846, il encourage un sergent de ville à crosser le républicain, qui est l'ennemi des roses et des parfums. Mais en fait,
et puis l'ennemi de Raphaël, et puis l'ennemi de Watteau, et puis l'ennemi des Beaux-Arts, voilà. Et l'ennemi des Belles-Lettres.
Voilà. Mais deux ans plus tard, en 1848, il s'engage vraiment, sincèrement même, c'est pas de la comédie, dans la Révolution de 48.
Alors bon, on va le retrouver, vous allez nous raconter ça, avec un fusil, semble-t-il, à la main. Donc la Révolution de février va abattre la monarchie de Juillet, et ses sergents de ville, et s'y mêlent beaucoup de personnages. Pourtant, on va entendre ici le nom de Georges Sand, qu'il n'a pas toujours détesté. Et puis une chanson de son ami, un autre chansonnier, Pierre Dupont.
Qu'est-ce que c'est que cette bourgeoise-là?
Oh, elle a une tête qui ne me revient pas.
À moi, elle me revient. C'est Georges Sand.
Entrez. C'est la victoire, Georges Sand. Notre victoire. La République sociale est faite.
Pour moi, qui tiens au peuple par le sang autant que par le cœur, c'est une grande joie, vous le savez. Hier, j'ai vu passer sur le boulevard 400 000 personnes. Dans l'ordre, la décence, le recueillement, la politesse mutuelle, c'était admirable.
En attendant qu'un meilleur vent souffle du ciel ou de la terre,
aimons-nous, et quand nous pouvons nous unir pour boire à la ronde,
que le canon se taise ou gronde, buvons. Vivons, vivons à l'indépendance du monde.
Mon ivresse en 1848. De quelle nature était cette ivresse? Goût de la vengeance. Plaisir naturel de la démolition. Ivresse littéraire, souvenir des lectures. Le 15 mai, toujours le goût de la destruction. Goût légitime, si tout ce qui est naturel est légitime. Les horreurs de juin, folie du peuple et folie de la bourgeoisie. Amour naturel du crime. Ma fureur au coup d'État, combien j'ai essuyé de coups de fusil, encore un Bonaparte, quelle honte! Et cependant tout s'est pacifié. Le président n'a-t-il pas un droit à invoquer? Ce qu'est l'empereur Napoléon III, ce qu'il vaut, trouver l'explication de sa nature et sa providentialité.
Dans ces notes de Mon cœur mis à nu, là, on a une concaténisation des trois ans depuis février 48. Il participe avec enthousiasme au moment de la répression du monde ouvrier en juin 48, horreur. Et puis, à la fin de la Deuxième République, une adhésion raisonnée au coup d'État, au prince président, parce que c'est l'autorité puis qui peut contenir la violence. Alors essayez de nous expliquer ça.
Mais en fait, donc Baudelaire, c'est comme tout dandy. En fait, Baudelaire s'est engagé. Il s'est engagé vraiment fortement dans cette révolution de 48. Puis ensuite, il s'en est dégagé à partir justement du coup d'État. Le coup d'État l'a dépolitiqué, comme il disait.
Dépolitiqué.
C'est le terme qu'il utilise dans une lettre à son notaire Narcisse Ancel. Donc, il y a une phrase que j'aime bien, alors chez un tout autre dandy, c'est Lord Byron, et c'est une phrase de Gabriel Mazneff à propos de Lord Byron qui dit « Un dandy peut militer, mais courtement ». C'est vrai pour Byron, et c'était vrai aussi pour Baudelaire. Donc il s'est engagé, mais ça rejoint le droit de se contredire dont vous parliez tout à l'heure. Donc il n'y a pas d'engagement de fidélité politique, si vous voulez.
Voilà. Mais le dandysme ne peut-il pas aller jusqu'à aller choisir un autre point de vue que celui qu'on avait un peu avant, bien sûr. Pour goûter le plaisir d'être ailleurs.
D'être ailleurs, voilà. Oui, voilà. Ouais. Oui. Il n'y a pas de fidélité. Ça c'est une chose certaine. Donc Baudelaire, ce qui l'a influencé aussi, c'est la lecture de Joseph de Maistre, qui l'a beaucoup éloigné.
Grand philosophe de la contre-révolution.
Voilà, et un grand philosophe assez vraiment franchement réactionnaire. Donc il l'a beaucoup éloigné des utopies socialistes de 1848.
Alors, puisque vous êtes sur Joseph de Maistre, on va tenter d'expliquer la grande théorie de Maistre, la reversibilité, qui pour Baudelaire est importante aussi.
Il s'agit en fait de... C'est-à-dire que l'idée, c'est que les innocents payent les crimes des autres.
Des coupables,
en quelque sorte, voilà.
Ça peut être un facteur d'explication de 1848. Mais souvent, il y a des explications plus... quotidienne. Il dîne avec Proudhon, le grand chef socialiste.
Oui.
Il aime bien Proudhon, ça l'intéresse. Enfin, bon.
Ah oui, il veut même le sauver d'un complot.
Oui, mais alors, vient le moment de l'addition. Alors Baudelaire, il est habitué à être invité, il aime bien ça. Enfin.
Et là, c'est pas le cas, justement. Et quand il a de l'argent, si elle lui arrive de temps en temps, il invite aussi. Oui. Il est généreux. Hein. Oui. Faut pas donner l'image d'un profiteur.
Oui, mais ça, c'est des élans plus ou moins irrationnels qui le saisissent. Proudhon, lui, c'est pas un homme qui calcule comme ça.
Oui, alors donc c'est un souvenir que raconte Baudelaire. Donc il raconte qu'à la fin du repas, Proudhon interpelle le garçon pour payer l'addition et il s'apprête à... Et Baudelaire s'apprête à payer l'addition pour les deux.
Ah.
Et Proudhon l'arrête d'un geste. Alors Baudelaire l'attend, pense que c'est lui qui va l'inviter. Et en fait, non. Proudhon paye son écho.
L'égalité, c'est très ennuyeux. On n'a pas parlé d'Edgar Poe. Il a trouvé beaucoup de ses revenus dans la traduction d'Edgar Poe. Il était extrêmement attaché à Edgar Poe. Et il disait d'Edgar Poe... On s'éloigne pas tant que ça de Paris. Il vit aux États-Unis comme dans une prison d'une grande barbarie éclairée au gaz. Il n'était pas démocrate non plus, Edgar Poe.
Non, pas vraiment. Enfin, surtout l'image qu'en donne Baudelaire, c'est l'image d'un homme qui a été totalement écrasé par la démocratie, qu'il appelle cette dictature du nombre.
Et la dictature du gaz. Alors, le gaz. Restons encore une fois à Paris. Les dernières années de Baudelaire, ça coïncide avec le début des chantiers de Haussmann, mais c'est un préfet de police précédent, Rambuteau, qui avait déjà introduit le gaz.
Nous commençons à voir l'éclairage au gaz. qui donne une lumière si vive qu'on se paraît en plein jour.
Alors ça, c'est le gaz?
C'est une belle invention.
À Paris, cela existe depuis 3 ans déjà.
Demandez à tout bon Français qui lit tous les jours son journal dans son estaminet ce qu'il entend par progrès. Il répondra que c'est la vapeur, l'électricité et l'éclairage au gaz, miracle inconnu aux Romains, et que ces découvertes témoignent pleinement de notre supériorité sur les anciens. Tant il s'est fait de ténèbres dans ce malheureux cerveau, et tant les choses de l'ordre matériel et de l'ordre spirituel s'y sont bizarrement confondues. Le pauvre homme est tellement américanisé par ses philosophes zoocrates et industriels qu'il a perdu la notion des différences qui caractérisent les phénomènes du monde physique et du monde moral, du naturel et du surnaturel.
Alors il y a toujours la double postulation, on s'arrêtera sur le surnaturel tout à l'heure si vous voulez, dans les Christine Natta, parce que le macadam il trouve ça très bien, il introduit des mots nouveaux dans le vocabulaire littéraire, et le gaz, ça le fascine aussi, jusqu'à l'explosion, qui l'intéresse beaucoup, et il le critique, parce que ça dissimule, ça enlève l'ombre et la dissimulation qui caractérisaient le vieux Paris.
Oui, mais plus généralement, Baudelaire a une relation n'aime pas le progrès technique. Il pense que c'est un fanal obscur et perfide, comme il l'écrit. C'est pour la raison pour laquelle il pense que le seul progrès ce serait dans la disparition du péché originel, comme il le dit. Il y a pas, pour lui, le vrai progrès est moral, il n'est pas technique. Donc, au contraire, il rejette son siècle pour cette raison-là, dans cette foi absolue dans le progrès. Pensant que le progrès va apporter le bonheur, Baudelaire n'y croit pas.
Il ne peut pas y avoir de disparition du péché originel, puisque toute la pensée en la matière de Baudelaire est fondée sur la double postulation.
Oui, c'est ça. Mais il dit que le vrai progrès, dans une phrase, donc il dit ça, que le vrai progrès, ce serait ça.
Mais je m'arrête pour finir avec vous. Oui. Cet exposé trop rapide de votre livre, Naturel, surnaturel. Et vous parlez de surnaturalisme.
Ben, le surnaturalisme, c'est le fait d'aller au-delà des apparences, au-delà des apparences visibles. Et c'est aussi ce que Baudelaire a trouvé dans la peinture d'Eugène Delacroix, par exemple, qui est sa grande admiration.
C'est-à-dire dépasser le désordre originel de la nature?
Oui.
Représenter une autre nature?
Oui, d'aller au-delà, donc, oui, c'est ça, d'aller au-delà, donc, des apparences visibles.
Et une nature qui aurait tous les caractères du naturel, sauf un, le surnaturel, quoi. On n'a pas parlé des Fleurs du Mal, vous consacrez au procès de très longues pages. C'est quand même le livre qui commence à contribuer à le faire connaître. Alors, une dernière question sur Paris. Son public, en fait, il était parisien.
Oui.
Seulement.
Surtout. Vraiment surtout, essentiellement, oui, c'est vrai, essentiellement parisien. Mais il s'est peu à peu élargi. Tout de même, il ne faut pas non plus être trop sévère. Il s'est quand même peu à peu élargi, surtout après le procès des Fleurs qu'il a fait connaître.
Mais son intention, ce n'était pas d'être un dandy pour Happy Few, c'était d'être un dandy avec reconnaissance générale. Ce qui est quand même contradictoire. C'est comme quand il se présente à l'Académie française.
Là, c'est pour une autre
raison. C'est pour saboter sa candidature.
Non, c'est un peu pour une autre raison. C'est parce qu'il voulait il trouvait qu'il y avait un trop grand divorce entre sa situation misérable et son honorabilité intellectuelle. Donc, il voulait réduire cet écart. Et c'est la raison pour laquelle il aurait souhaité. Bon, ça s'est évaporé très vite. Surtout qu'il a rien fait pour vraiment.
Parce qu'en réduisant son écart, il l'a creusé.
Un peu, oui. C'est-à-dire qu'il a tout fait pour que ça ne marche pas. Mais ça, c'est cette conduite d'échec, c'est assez fréquent chez lui aussi.
Merci à vous, Marie-Christine Natta, Baudelaire, aux éditions Perrin. Merci à Inuka Negulesco qui a préparé cette émission, à Audrey Ripouille qui la réalise dorénavant, sauf un jour par semaine, et à Patrick Henry qui était à la technique.